Bonjour, bonjour et bienvenue dans les petits poussés du game. Alors c'est un nom un peu, on va dire, comme Elena a trouvé tout à l'heure, donc c'est un nom un petit peu, enfin il y a 5 minutes, c'est un nom un petit peu en mode prototype, on sait pas si on va le garder, mais pour l'instant c'est le nom de l'émission, enfin de ce podcast qui va parler de jeux vidéo et plus particulièrement de jeux vidéo inconnus, donc jeux vidéo qui sont un peu cachés, un petit peu, que les masses ne voient pas. Nous on est un petit peu attirés vers ce genre de jeu et du coup on aimerait vous présenter ce qu'on trouve, les petites pépites un peu inconnues dont on aimerait parler. Et du coup, pour présenter donc cette émission, j'ai avec moi Mélena. Bonjour Mélena.
Oui, bonjour. Je suis vidéaste et streameuse depuis longtemps et présente des jeux vidéo inconnus aussi sur Internet. Donc c'était un peu normal de se retrouver du coup sur ce sujet-là, qui est un peu notre dada.
c'est ça. Et du coup, bah voilà, moi je suis Valentin. Donc j'ai aussi fait quelques vidéos sur le net sur des jeux plus ou moins connu, on va dire, et je fais aussi du jeu vidéo à côté, donc voilà, je m'amuse bien dans le domaine, donc voilà aussi.
Le jeu vidéo inconnu, c'est un large thème qui est un peu subjectif, puisque chacun a son petit jeu qu'il préfère inconnu, mais ça dépend des ventes, des pays, etc., qui peut en avoir parlé, ça peut faire mauvaise vente, et ça te fait connaître dans une grosse communauté juste à côté pour une raison ou une autre. Donc voilà, on peut dire inconnu et méconnu. Méconnu, ça marche aussi.
En fait, quand on parle de jeu inconnu, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de limite claire à ce qui est inconnu ou ce qui est connu. Donc quand on parle de jeu inconnu, c'est ce qui est inconnu pour nous, de manière générale, ce qu'on trouve qui est inconnu sur le net, dans le monde de jeux vidéo. Mais voilà, on va parler, ça se trouve, des fois de jeux un peu plus connus. Il y a pas de, voilà. Si je vous parle de Camille, bon, est-ce que c'est connu, est-ce que c'est inconnu, c'est difficile à dire parce que pour nous, c'est connu. Mais est-ce que c'est inconnu pour tout le monde? Ça, c'est plus compliqué. Et du coup, on va...
Ce qui va faire débat sur ma chronique, parce que c'est quand même moyen connu.
c'est quand même un petit peu connu, mais après voilà, ça dépend de votre culture dans le jeu vidéo, on va dire. Du coup, aujourd'hui, voilà, pour ce petit podcast, du coup, on va chacun vous présenter une petite chronique. Aujourd'hui, on a décidé que le thème du premier épisode serait le jeu japonais. Donc voilà, c'est un petit thème, parce que on connaît pas assez mal le jeu japonais, quand même, mine de rien, chez nous. Et du coup, on avait envie d'en parler pour ce premier épisode.
Qu'on peut même presque dire jeu expérimental.
Ouais, presque, on peut presque. Moi, je sais pas si c'est expérimental de mon côté, mais je pense qu'on pourrait dire, en tout cas, jeu assez atypique, ouais, c'est voilà. Sûr. Mais pour toi, oui, c'est clair que c'est du jeu un peu plus expérimental dans le nominé. Et donc, on va vous présenter ces deux petits thèmes, ces deux petites chroniques, et voilà. Et ensuite, on conclura en parlant de deux jeux plus ou moins peu connus auxquels on a joué, on en parlera vite fait. Du coup, pour parler de jeux ou faire découvrir un titre ou deux qui valent le coup d'œil. Et donc, on vous en parlera en fin d'émission. On va commencer tout de suite avec la première chronique. Est-ce que tu veux commencer, Mélana, ou est-ce que tu veux que je commence?
Oh, je peux peut-être commencer.
Ouais.
Je voudrais tout d'abord introduire par une petite histoire comment j'en suis arrivé à ce thème-là. Donc, du coup, je vous raconte une petite histoire. C'est que je vais vous parler de Takahashi.
Ah.
Teika Takahashi. J'ai rencontré Monsieur Takahashi un jour normal de ma vie. En me délectant de ma galette bleue hebdomadaire, je défilais le menu comme toutes les semaines jusqu'à tomber sur un nom, Katamari. Ça ne voulait rien dire pour moi, avant que je ne découvre les joies de rouler toujours plus vite et toujours plus gros. La démo ne durait que quelques minutes, où nous devions enrouler cette petite boule collante des crayons, des gommes, pour faire grossir la boule, pour finir par rouler des chaises, des bureaux. Plus ce Katamari gagnait en grosseur, plus elle enflait mon ambition. La particularité de ce jeu était qu'il était jouable à deux. Sachez qu'une grosse boule, c'est déjà compliqué à gérer. Pour avancer, il fallait avancer les deux joysticks en même temps, reculer l'inverse, pour tourner à droite, avancer le joystick gauche et reculer le joystick droit. Pour tourner à gauche, l'inverse, il fallait reculer le joystick gauche et avancer le joystick droit, comme des mains posées sur une énorme boule. Croyez-moi, c'est déjà une gymnastique du cerveau. Alors à deux joueurs, l'un représentait le joystick gauche et l'autre le droit. Croyez-moi, encore une fois, pour jouer en coopération, il fallait une certaine synergie avec son ami. Ou alors, quelqu'un ressortira très vite de chez vous avec une commotion cérébrale due à l'implantation rapide et forcée d'une DualShock 3 dans son lobe occipital gauche. Et mon ami, avec toi, je n'ai pas joué. J'ai fusionné. Notre ambition de voir jusqu'où nous pourrions faire grossir cette boule était inarrêtable. La manette en main, nous ne jouions plus pour nous. Nous ne jouons plus. Communion. Nous n'avions plus besoin de parler pour agir. Connaissant le moindre recoin de cette salle de classe, nous lisions dans nos pensées et nous finîmes par ne plus être qu'un. Nous retournions cette salle de classe en long et en large, exploitant la moindre seconde pour rouler sur les amas de crayons, puis de règles, puis de classeurs, de chaises et de bureaux, de portes, d'élèves, de professeurs, de murs. Puis le temps s'arrêtait, toujours alors que nous nous demandions où était ce dernier prop qui nous manquait. Nous avons passé tant de jours à fusionner nos esprits, à savoir comment exploiter au maximum cette salle de classe, que nous en avions oublié que c'était une démo. Et ce jour-là, où nous sommes rentrés dans ce supermarché, fouillés dans ce bac de promotion, et que nous découvrions que notre démo était bel et bien une partie d'un jeu entier, sachez que ce jour-là, notre ambition a crevé les plafonds, et de l'entendement humain. Nous voulions rouler les gommes, les enfants, les écoles, les gratte-ciels, les villes, les îles. Ce jeu nous a appris que l'amitié, ce n'était pas que des mots, mais aussi des silences. Ces silences nous ont appris que nous pouvions compter l'un sur l'autre et que nous n'avions pas besoin de demander à l'autre son aide et que quoi qu'il arrive, nous étions l'un pour l'autre, prêts pour enrouler le monde ensemble. Et pour cela, merci Monsieur Takahashi. C'est Katamari a fait quelque chose, a été une grande histoire dans ma vie et du coup, je suis tombée raide amoureuse de ce développeur, chef de production, je sais pas comment on peut dire.
Mais il travaille tout seul, je crois. Hein.
Qui finalement a créé un monde nouveau et un monde très expérimental où j'ai pu découvrir plus tard la suite de ces jeux comme Nobinobi Boy et Watam très récemment. Et Nobinobi Boy est un cas à part. Voilà. Je sais pas si tu as joué à Nobinobi Boy.
J'ai jamais joué à Nobinobi Boy, non. Mais je vois ce que c'est, ouais.
Comparé à Katamari, où le principe était d'enrouler une boule pour la faire grossir, au final, c'était le simple principe, même s'il y avait des objectifs secondaires comme rouler du rose, rouler des fleurs, rouler que des fleurs, etc. Nobinobi Boy, c'était cet aspect très positif de Takahashi. Takahashi, c'est quelqu'un qui veut ramener, qui aime le monde et qui aime l'humain. Et qui veut rapprocher les gens entre eux. Et on le voit déjà de base dans Katamari, où tout le monde est heureux de voir ces boules et qui sont transformées en étoiles. Et le roi qui, finalement, imbu de lui-même, se fait convaincre par son ego pour faire plaisir à sa population. Sa population qui rêve d'être enroulée, finalement. Et même la pire des choses dans l'univers de Takahashi devient quelque chose de positif et d'heureux. On y voit toujours le bon côté des choses. Et Nobinobi Boy, c'est quelque chose qui m'a touché profondément au cœur, parce que Nobinobi Boy, le principe, c'est de pouvoir avoir une limace, on peut appeler ça, qui mange et fait caca pour devenir plus grosse, mais qui peut s'étirer.
C'est un Tamagotchi, en fait.
C'est ça. T'as pas besoin de nourrir, hein. C'est juste pour le grossir. Plus tu manges, plus tu grossis. Mais en fait, tu peux l'étirer. Et plus tu l'étires, plus il devient une énorme limace informe. Et du coup, tu es dans ton arène, tu peux manger des bidules. Si je me trompe pas, les arènes sont générées aléatoirement.
Ouais.
Et du coup, tu peux manger des bidules. T'allonger, te rétrécir, etc. Tu peux jouer jusqu'à 4 joueurs. Je sais qu'avec des amis, on a joué jusqu'à 4 joueurs. Et le jeu n'a aucun intérêt en soi. Vraiment, le simple principe, c'est juste de s'étirer, manger des trucs, etc. Mais tu n'as aucun objectif. Tu es lâché dans un espèce de carré qui vole dans l'espace avec des props qui sont à droite et à gauche. Donc, des props, pour ceux qui ne savent pas, c'est des. Comment on pourrait décrire?
Des objets, quoi, concrètement.
Ouais, c'est ça, c'est des objets qui peuvent bouger. Voilà, c'est pas que du décor. Et du coup, tu peux manger des probes, des humains qui passent par-ci, par-là, etc. Les recracher et t'étirer, etc. Et en fait, quand tu restes que de ton niveau de joueur qui est sur sa console et qui joue à ça, tu ne vois pas l'intérêt parce qu'il n'y a aucun objectif. Le truc étant que c'est connecté en ligne. Et ce qui fait qu'en fait, dès que tu étires ta limace, en fait, les centimètres que tu gagnes ou les mètres que tu arrives à gagner sont envoyés dans une base de données. Et en fait, tous les centimètres et les mètres que tu gagnes sont envoyés pour faire grandir Nobinobi Girl, qui du coup entoure la Terre et qui grandit, elle, à chaque fois que tu grandis. Et à chaque fois que tu grandis, Du coup, elle traverse l'espace et enroule des planètes. Et du coup, à chaque fois que tu te connectes, le monde entier travaille à ce que Nobby Nobby Girl continue son périple dans l'espace. Et j'ai vécu, je l'ai vécu IRL, ce moment où toute une communauté du coup qui s'amusait à s'étirer, à faire n'importe quoi dans ces petites arènes, a réussi à englober le système solaire et arriver du coup au soleil et l'entourer. Et arrivé au soleil, il y a eu cette cinématique du coup quand tu ouvres le jeu de Nobby Nobby Girl qui enroule le soleil. Et il y a quelque chose de très contemplatif, très émotionnel de voir ça arriver et te dire j'ai fait partie de ça et on a été tous derrière notre console à participer à ça. Genre, le jeu aurait pu bider, hein, on n'aurait jamais pu avoir ça. Mais toute la planète, enfin tous ceux qui ont du coup acheté le jeu et joué à ce jeu
C'est-à-dire cinq personnes.
ont participé à faire ça. Et c'est un sentiment qui est très propre à ce que Takahashi essaye de faire dans ses œuvres, c'est rapprocher l'humain. Et vraiment, j'avais la banane quand j'ai ouvert le jeu et que je suis arrivé, on est arrivé. C'est beau quand même, on a tous travaillé pour réussir à faire ça.
Oui,
Vraiment, c'est.
c'est un jeu qui parle pas mal de l'effort commun. De manière générale, c'est quelqu'un qui est très positif dans ses jeux. Tu vois, Nobby Nobby Boy, en soi, c'est, enfin, tu le décris à quelqu'un, en fait, tu peux concrètement, ça donne pas spécialement envie. Enfin, c'est purement un human centipede mignon, tu vois. Enfin non, mais pour le décrire, tu vois, c'est un peu ça. Mais malgré tout, t'as quand même en fait des thématiques assez positive. C'est, enfin, le jeu japonais est très positif, je trouve, de manière générale, dans l'absolu, à part quelques auteurs, mais de manière générale, je trouve que le jeu japonais est très positif. Et Takahashi, c'est vraiment quelqu'un qui a toujours eu cette ligne de conduite de faire des jeux très positifs, très 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 reposants, très mignons, en fait. J'ai pas joué à Nobby Nobby Boy, mais tu vois, ça m'étonne pas qu'il y ait cette thématique un peu de l'effort commun, tout ça, dans ce genre de jeu, ouais.
C'est vrai que, en fait, quand tu as envie de sourire, tu lances un jeu de Takahashi et forcément, tu vas te retrouver dans une ambiance très très joviale, quoi.
Ouais.
C'est sûr que c'est vraiment pour se relaxer. C'est-à-dire que t'es jamais très stressé. Enfin, il n'y a jamais de stress dans ces jeux. Il n'y a jamais de même si Katamari, tu as quand même un compte à rebours pour réussir, etc. Et que tu te mets des auto-objectifs. Je me rappelle du coup du dernier niveau de Katamari où mon rêve c'était d'enrouler le roi qui est possible là. Pour tous ceux qui se demandent si c'est possible, oui c'est possible, je l'ai fait. Voilà, bon courage à ceux qui essayent, mais je l'ai fait avec un ami, donc en coopération, donc c'est encore plus dur, mais je l'ai fait. Voilà, et même quand tu te mets des objectifs et que tu as un timer sur la tronche qui te presse, au final l'action en elle-même est tellement sent en fait enfin, dans le sens où juste rouler des boules c'est quelque chose de satisfaisant en fait c'est un peu du même niveau que écraser son doigt sur des papiers bulles
Oui.
tu vois un truc qui colle sur la boule tu
Oui,
t'as envie de tout enrouler
t'as envie
bah,
de
c'est pareil
grossir,
tu
tu dis, ah,
vois
je vais aller choper ça, oui, en effet. Oui.
c'est ça voilà à chaque fois que tu vois un petit objet tu dis ah je veux la taille pour choper ça c'est débile tu vois
Ouais. Mais
Tu roules c'est une boule
c'est ce
qui colle.
plaisir, hein, un petit peu, tu vois,
Voilà.
du gigantisme. Moi, je sais que j'avais joué à Katamari Forever, du coup, sur PS3. J'avais un de mes niveaux préférés. Je crois que c'était un niveau remake du premier Katamari Damacy, bref, je sais plus. C'est un niveau où, en fait, t'es sur la Terre. Littéralement, sur une sphère qui est la Terre. Et en fait, au début, tu chopes des morceaux de terre, donc des morceaux de pays, etc. Et après, tu peux choper enfin, tout ce qui traverse, en fait, la Terre. Tu vas choper des sphinx, des trucs comme ça. Et en fait, tu roules autour de la Terre. Et après, tu deviens tellement grand qu'en fait, tu chopes les constellations qui tournent autour de la Terre, en fait. Tu chopes les étoiles et tout. Et c'est absolument délirant comme jeu. Moi, je sais que j'ai beaucoup pris le plaisir, en tout cas, de voir ce gigantisme agir et de devenir plus en plus grand et tout. Et c'était très. T'as aussi le simple plaisir de la performance, de dire ouais, j'ai fait mieux que la dernière fois avec mon timer, j'ai réussi à casser le score, etc. Mais t'as aussi, je trouve, vraiment le plaisir très ludique, simplement de. Enfin, en fait, quand tu rejoues à Katamari, t'as vraiment ce plaisir de très simple de progression visuelle, quoi, et c'est ultra plaisant. Là-dessus, ouais, je suis tout à fait d'accord. Mais voilà, ouais.
Voilà.
Et
Et
Takahashi.
du coup, voilà, sa dernière œuvre est sortie. Et je sais qu'elle a fait pas mal de déceptions de la part des fans. Pas pour ma part. C'est quelque chose de très spécial, Watam. T'as pu tester par contre Watam,
J'ai
toi?
pas pu tester Watam encore, j'ai pas pris le temps.
Alors Watam, c'est beaucoup plus. Là, on était très habitué à une liberté assez forte de la part des jeux de Takahashi. Donc Katamari, ces niveaux où tu commences à faire 2 cm et tu finis à faire 10, 20 km parce que, en t'amusant, tu vois.
Puis les niveaux sont relativement ouverts, donc tu vas un peu où tu
Voilà,
veux,
des
etc.
univers très open world, Nobby Nobby Boy, où bah, là, tu es complètement libre, parce qu'il y a vraiment zéro objectif, donc tu fais vraiment ce que tu veux, c'est le principe. Là, Watam, tu es bloqué dans un petit carré où il n'y a plus rien, et en fait, tu as des objectifs qui ne te sont pas dits, mais qui te sont guidés par la narration absurde, totalement absurde, hein. Je me rappelle du message que je t'avais envoyé de ma première partie de Watam.
Oui, qui
C'était.
faisait. J'ai rien
Ça
compris,
n'a
j'étais
aucun
perdu
sens.
aussi.
Où le principe, c'est que il n'existe plus rien et tu vas devoir tout faire. Et donc, du coup, par lien de cause à effet, enfin, par lien de lien logique, tu vas devoir recréer le monde. Et ce qui fait que tu vas devoir créer les couleurs, les températures, etc. Et au début, il n'y a rien à part. Monsieur Gendarme, qui est une pomme, je crois. Je crois que c'est une pomme. Et du coup, petit à petit, avec le pomme, tu découvres les fleurs. Et donc, du coup, le principe de pousser avec les fleurs, tu trouves les arbres. Via les arbres, tu réussis à créer des noisettes qui plantent des choses. Et après, du coup, tu as. Et tu provoques en fait des choses qui arrivent. J'ai du mal à expliquer vraiment, ouais.
Ouais, parce que c'est trop bizarre en fait.
C'est vraiment trop
C'est.
bizarre. Le principe est que tu vas appeler des choses qui sont par lien logique. Par exemple, tu vas appeler. Il y a ce moment très très enfantin où tu découvres. Enfin, le goût arrive, donc du coup une bouche arrive et commence à manger les pommes, etc. et tout, et créer du caca, du coup.
Ouais.
Parce qu'on est très dans l'enfance, dans la
Ouais.
redécouverte des sens, etc. Et au final, ça rappelle un peu aussi le schéma des enfants qui passent par le goût la fascination pour le caca, etc. Je sais plus exactement ce que c'est, mais en psychologie, on voit ça,
Oui, Freud et tout ça, oui.
on a des grands actes là, où on mange tout, on goûte tout, on sent tout, etc. On touche tout. Et du coup, il y a ce principe-là. Et du coup, quand tu découvres le goût, l'odorat, etc., qui ramène du coup une bouche vivante, un nez vivant, et qui sent tout, et bien, quand tu commences à créer tout le monde en caca, tout le monde est content d'ailleurs de devenir un caca, c'est bien, c'est dans Takahashi, tout le monde est content de devenir quelque chose, de
Yes.
participer à quelque chose. Là, Katamari, ils étaient contents de se faire rouler, tu te dis, mais ça doit être un cauchemar en vrai. Mais non, ils sont heureux, ah, c'est trop bien d'être enroulé. Et bien là, c'est pareil, tu as les fruits qui se font manger, qui deviennent des cacas, ils sont super heureux, et ils disent, ouais, venez, on devient tous des cacas. Et du coup, la bouche commence à manger tout, et les fesses font des cacas. Et du coup, eh ben, par lien logique, ça appelle les toilettes, qui eux amènent du coup des autres trucs de la salle de bain, etc. Et c'est très bizar à parler. Et voilà.
Putain, ils sont bizarres les nouveaux, là, ils parlent de caca déjà et tout.
Mais voilà. Du coup, Watam, c'est moins libertin. Non, c'est pas le terme du tout.
C'est moins libre.
Je retire. Je retire, c'est
Ça
moins libre.
part en n'importe comment, là.
Ouais, c'est moins libre parce que du coup, c'est des liens logiques qui sont déjà tracés par le jeu et du coup que tu ne fais que par suite logique. Mais le jeu ne te l'indique pas forcément et c'est, je sais pas comment on appelle ça, quand tu comprends le jeu alors qu'il ne te le dit pas, mais tu le comprends que directement grâce au game design en fait.
Et c'est une sorte de sentiment de satisfaction assez intense de dire ah je suis plus malin
Voilà.
que le jeu alors qu'en fait pas du tout c'était prévu mais tu te sens trop
Voilà,
malin
c'est
quoi.
ça. Et du coup, bah, Watam, c'est ça, c'est tu suis une suite logique et tu n'as qu'une hâte, c'est de découvrir qu'est-ce que tu vas encore créer grâce à tes liens logiques.
Ouais.
Et du coup, petit à petit, tu as le monde qui commence à devenir de plus en plus grand avec des nouvelles îles, avec des températures différentes, l'été, printemps, etc., qui découvrent de nouveaux éléments, le château de sable, etc. Et il y a une petite intrigue derrière, que je ne spoilerai pas. Mais voilà, tout le principe de Watam, c'est ça. Et pour moi, je ne suis pas déçu de ce jeu, même si on est moins libre dans nos choix, parce qu'il y a toujours cet esprit découverte Et cet esprit de surprise, un jeu tellement coloré qui te fout la banane. Et même si au final tu ne fais pas grand-chose et tu n'es pas très libre, au final tu fais que suivre ce que le jeu t'indique sans le savoir. Et ben, tu as quand même ce bonheur de découverte continuelle qu'il y a, quoi. Et cet esprit aussi de. Bah, du coup, il y a toujours aussi cet esprit de groupe, même si là, il est vraiment offline. Cet esprit groupe où, du coup, tu crées toute une mini-civilisation de petits trucs qui créent des machins et qui sont heureux et qui réagissent entre eux pour pouvoir créer d'autres choses, tu vois.
Puis je pense qu'il y a quand même une partie online, tu sais, parce que c'est souvent ce genre de jeu un petit peu où tu as plein de choses à découvrir, où généralement les gens se réunissent sur des forums pour s'entraider, etc. Pour se dire, ah, moi j'ai vu ça, oh, comment t'as fait ça, etc. Enfin, je sais que quand je. Par exemple, c'est ce qui était beaucoup arrivé avec Zelda, le dernier Zelda, c'est que les gens avaient énormément partagé leur aventure, parce que le jeu te proposait énormément de possibilités
Oui.
en fait, de ce qui pouvait t'arriver. Et du coup, les gens, en fait, se disaient, ah, mais comment t'as fait ça? Ah, t'es arrivé ça, c'est vrai, et tout. Et il y avait un énorme partage, même si le jeu était totalement sans partie multijoueur, t'avais un énorme partage, en fait, des communautés sur les réseaux en ligne, en fait. Donc je pense qu'il peut avoir ça aussi. Après, je sais pas, je fréquente pas spécialement
Alors,
ce genre de communauté, mais.
faudrait vraiment que je m'informe parce que je ne sais pas si on a vraiment des libertés en termes de création dans Wattam ou
Ouais, ou
si
si tout est
vraiment le jeu.
dirigé.
Parce que j'ai fait qu'une première partie, donc. Faudrait que je refasse une partie, voir si en faisant d'autres choix, en prenant d'autres contrôles, parce qu'on peut prendre le contrôle de chaque habitant pour faire les choses, parce que je sais que j'ai eu ma pomme qui est devenue, qui a fini violette ou un truc dans le genre, et je me dis, est-ce que si j'aurais pris quelqu'un d'autre, est-ce que j'aurais eu une autre ligne, mais je ne sais pas encore, je sais pas, ça je pouvais pas m'avancer sur le fait de, est-ce qu'il y a vraiment des choix créatif derrière que tu peux faire en tant que joueur, tu
Ouais, si vraiment t'as un impact important ou pas, ouais, je vois.
J'ai pas l'impression, mais c'est possible, peut-être que je me fourvoie et que je suis passé à côté d'une expérience. Et ça serait très très bien d'ailleurs, hein, de se dire qu'on peut revenir sur le jeu et qu'on a loupé plein de trucs. J'adore ça, moi.
Ouais. Ah mais bah oui, ça pourrait être intéressant. Après, moi, tu m'intéresses avec le jeu, j'ai plutôt bien envie de l'essayer, je t'avoue, maintenant. Et tu vois, ça me fait penser un peu, bah, du coup, Takahashi, c'est vraiment un peu enfin, même si on en a parlé juste avant l'émission, c'est pas vraiment un développeur indépendant, parce qu'il a toujours plus ou moins eu des éditeurs depuis Katamari Damacy au moins. Ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui fait bon, des jeux un peu expérimentaux de base, mais qui fait aussi des jeux, j'ai envie de dire, très japonais, pas dans le sens où oh, c'est n'importe quoi, c'est what the fuck, même si ça l'est un petit peu. C'est surtout quelqu'un qui fait des jeux très positifs et très colorés. Je t'avais parlé l'autre jour que j'avais joué à Elite Beat Agents. C'est
Ouais.
pareil, c'est ultra positif, très coloré, alors qu'en fait tu te retrouves avec des personnages, littéralement ils sont dans des situations mais, enfin, dans lesquelles tu voudrais jamais te retrouver. Ruinés ou à 200 km de leur maison sans avoir aucun moyen de transport, etc. Et t'as toujours la musique, les personnages qui arrivent, et pouf, allez, ça part, et tu joues à ton jeu, et pim, bam, boum, tu t'éclates, et le personnage il surmonte toutes les épreuves grâce à tes encouragements, en fait, grâce à
Ouais.
tes encouragements. Et allez, hop, le positivisme, en fait, toujours de ce genre de jeu, un petit peu. C'est toujours très positif, enfin, pas toujours, hein, Dark Souls par exemple, mais de manière générale, ce que je veux dire, c'est que le jeu
Ah mais
japonais est quand même, de manière générale, très positif et très coloré, je trouve. Et
après Dark Souls, c'est
Takahashi.
pas forcément un bon exemple parce que justement, ils se sont inspirés de l'heroic fantasy occidentale.
C'est vrai.
Donc on pourrait limite dire qu'on est la mauvaise influence.
Mais voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression que le jeu japonais,
Oui.
c'est vraiment beaucoup de. Enfin, tu vois, même des jeux vraiment paumés, je pense à des trucs genre Captain Rainbow ou Captain Love, ce genre de trucs-là, qui sont
Oui.
vraiment des jeux un peu paumés, mais qui sont des jeux un peu aussi toujours dans le. Ah, tiens, on va faire des cadeaux aux autres. Il y a Giftopia qui existe, je vais en parler vite tout à l'heure, parce qu'il est en lien avec ce dont je vais parler, mais c'est un jeu où littéralement tu fais des cadeaux aux gens, tu vois. Il y a toujours vraiment ce genre de. Je pense un peu cette pensée-là japonaise qui est un peu. Ouais, dans le. Après, je dis pas que c'est universel, hein, chez les Japonais, mais je pense qu'il y a quand même pas mal une grande représentation du jeu positif, alors que chez nous c'est quand même beaucoup moins présent. On a beaucoup plus de jeux de guerre, de jeux de combat, etc. On a beaucoup moins de. Pareil, c'est pas pour rien qu'au Japon, il y a un genre de jeu qui est quasiment inexistant chez nous, qui est ultra populaire là-bas, c'est le dating sim, tu vois.
Oui.
C'est quelque chose qui est quand même assez révélateur, je pense. Et Takahashi, pour moi, c'est vraiment un des je dirais pas des pères fondateurs, mais un des développeurs importants japonais qui a vraiment cette influence de ouais, on fait du jeu positif avec plein de couleurs, des trucs vraiment sympas, tu vois, où on n'est pas là pour se prendre la tête sur des intrigues ultra complexes, on est là pour vraiment passer le message positif et dire que ouais, on peut faire des trucs cool, etc. Donc voilà, pour moi, c'est ça qui m'inspire en tout cas, ce développeur.
Je suis du même avis. Sur le coup, je vais pas répondre. Vraiment, ouais, c'est vraiment ce côté heureux qui m'a de toute façon attaché à ce développeur. et
Ouais.
qui fera que j'achèterai Day One tous ces jeux qui sortiront.
Même s'il fait un Dark Souls.
Ouais, bah alors s'il fait un Dark Souls, je pense qu'il aura pas du tout la gueule de Dark Souls.
Ouais, c'est bien possible. Mais voilà.
Ce sera Pink Souls, tu vois.
Pink Souls. Redonne de l'amour aux gens.
C'est ça, voilà. Quand tu meurs, c'est parce que t'es trop triste. Tu dois aller récupérer tes cœurs.
Bah, tu sais que c'est exactement comme ça que fonctionne un jeu dont je vais parler dans 5 minutes. Il s'appelle Chulip.
Enchaîne, hein.
Allez,
vas-y.
La transition parfaite. La transition parfaite. Parce que moi, je vais vous parler, du coup, alors je vais vous parler d'un petit sujet sympathique. Puisqu'en fait, je vais vous parler plus d'un développeur réellement que d'un jeu en particulier, mais je vais vous parler plus d'un jeu en particulier ce développeur. Il s'appelle Yoshiro Kimura, donc c'est aussi un développeur japonais. On a dit qu'on faisait une émission plutôt japonaise pour le coup. Alors, qui c'est Yoshiro Kimura? C'est un. Alors, moi, j'ai pas prévu de texte, vous avez entendu, mais là tout à l'heure, elle a un peu lu un texte. Bon, elle est écrivaine, donc elle est capable de faire ce genre de choses correctement. Moi, c'est un peu plus complexe, donc j'essaie d'improviser un peu différemment. Du coup, Yoshiro Kimura, donc c'est un développeur japonais. Alors, je pourrais plus vous dire son âge, mais il doit avoir dans la cinquantaine, si j'ai pas de bêtises. Il a commencé dans les années 90, début des années 90, sur les Romancing Saga chez Square Enix, où il faisait juste des graphes, il faisait juste la partie graphique des maps en fait. Et en fait, très rapidement, il est allé dans une boîte qui s'appelle Love the Leak, j'arriverai jamais à le prononcer, bref. C'est une boîte qui est née à la fin des années 90 au Japon, et ils ont fait trois jeux, c'est tout ce qu'ils ont fait. Et après, ils sont dissous, et c'est une boîte qui a été connue notamment pour être une boîte très. Ils disaient eux-mêmes être des punks du jeu vidéo. Bien avant Goichi Suda d'ailleurs, hein, qui se dit aujourd'hui le punk du jeu vidéo, eux c'était bien avant. Et en fait, c'est des gens qui ont fait des jeux un petit peu. C'est de la contre-culture, tu vois. Ils ont fait un jeu, alors j'en avais fait un live vite fait, ça s'appelait LOL, LOL, et c'est un jeu donc sur la création d'un être vivant, d'un organisme sur une planète extraterrestre. Et en fait, tu devais te développer dans chaque zone, tu devais te développer en prenant des gènes, etc., et de transformer en une nouvelle créature, etc. Et ils ont fait aussi un autre jeu, alors qui est un jeu qui est un peu particulier, mais Yoshiro Kimura a pas bossé dessus. C'est un jeu qui parle un peu des gens, qui parle de la vie en fait de manière générale. C'est un jeu où tu gères en fait des. Enfin, j'ai jamais joué parce que c'est un jeu qui est uniquement en japonais. C'est un jeu très textuel, mais c'est un jeu où tu gères des gens qui vivent chez eux. Enfin, c'est un peu atypique. Et ils ont fait Moon RPG Remix, qui va d'ailleurs sortir enfin chez nous en anglais sur Switch bientôt. Donc, qui appellent ça un anti-RPG. Voilà, c'est un RPG un peu parodique, un peu comme les Mother, si on veut, dans l'idée, mais qui est quand même un peu différent malgré tout. Et en fait, après Love the Lease, ou Love the Leak, je sais plus comment on le prononce, Yoshiro Kimura donc, va dire simplement tout le monde se dissout et tout le monde va faire un peu ses propres jeux. Donc, il y en a qui vont partir faire Giftopia, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un jeu où en fait on fait des cadeaux aux gens. Il y en a qui vont partir faire Indonesia, qui est un jeu de survie un peu bizarre, mais qui a l'air très cool, mais qui encore une fois qu'en japonais, donc compliqué d'accès. Et Yoshiro Kimura, il va partir fonder sa boîte qui s'appelle Punchlines, où il va notamment faire deux jeux. Il va faire en 2002, il va faire Chulip, dont je vais vous parler un peu plus en détail. Il va bosser un petit peu sur Rule of Rose en 2006 avant de quitter la boîte. Et donc on va un peu le truc un peu bizarre, parce que Chulip c'est le jeu tout mignon, on fait des bisous aux gens, et Rule of Rose c'est un des pires jeux d'horreur du monde, tellement qu'il est glauque, tellement que le truc est ultra glauque. Donc voilà. Mais voilà, après il va partir bosser un peu pour Goichi Suda pour produire des No More Heroes, des Shadow of the Damned, tout ça. Et entre-temps, il va aussi produire Little King Story, qui est un petit jeu tout mignon que je vous conseille d'aller voir. Et puis enfin, il va partir arrêter un peu le jeu vidéo. Et un jour, il va venir. Alors, je vous laisse aller voir sur la chaîne Archipel, qui est une chaîne incroyable qui parle de plein d'artistes japonais, donc des mangaka, des illustrateurs, des musiciens, des développeurs de jeux vidéo. Bref, il y a plein de trucs. Il y a des sous-titres français, anglais, bref, allez-y, c'est super. Et il y a une interview notamment de Yoshiro Kimura d'une douzaine de minutes, où il parle un petit peu de ce qui s'est passé durant cette période-là. Il dit qu'il en avait un peu marre de bosser en tant que producteur dans des grosses boîtes pour des jeux qu'il n'avait pas spécialement envie de faire. Et en fait, il va faire un voyage en France, et là-bas, il va voir quelqu'un qui fait des jeux indés, etc. Et du coup, en fait, il va simplement se remettre à faire du jeu indé en créant une nouvelle boîte qui s'appelle Onion Games. Voilà, donc la boîte Onion, enfin les jeux Onion. Pardon. Et en
Ça a à
fait.
voir avec le projet indépendant de d'internet ou pas?
C'est-à-dire,
Vraiment? Parce que je sais que Onion c'est très porté très très libre sur internet. C'est de
le
la
symbole de la
liberté.
liberté. Alors,
C'est
je pourrais pas te dire si c'est un rapport ou pas, je suis pas assez renseigné sur le truc, donc je sais pas. C'est possible que ce soit pas juste une coïncidence en vrai, mais je suis pas assez renseigné
après.
pour te le dire. Et
Oui,
du
puis
coup.
moi aussi, hein. J'avance ça, mais
Ben voilà, je connaissais pas vraiment, donc bon, voilà.
voilà.
Mais c'est possible du coup. Et du coup, voilà, il a fait trois jeux depuis, donc il a fait Million Onion Hotels, qui est une sorte de. C'est très difficile à définir, c'est une sorte de match 3 un peu bizarre. Il a fait Dundee Dungeon, Legend of Raviamada, qui va être le jeu qui va nous intéresser. Et il a fait Blackbird, qui est son dernier jeu sorti. Donc à la base, il a fait plus de jeux mobiles. Et maintenant, en fait, il a sorti Blackbird l'année dernière sur PC et Switch, je crois. Et là, du coup, ses anciens jeux mobiles ressortent sur PC et Switch, notamment. Voilà. Et en fait, j'aimerais vous parler un peu de Dungeon Dungeon, parce que pour moi, c'est le. Donc, je suis en train d'y jouer, je ne l'ai pas encore terminé. Mais de manière générale, je ne dois pas être loin de la fin. Et c'est un jeu qui, pour moi, synthétise plutôt bien. Alors là, je vous ai parlé, c'était un peu longué, mais je vous ai parlé grossièrement de tout ce qu'a fait la personne. Je vous invite à aller voir les jeux qu'il a fait d'ailleurs, à vous renseigner un petit peu. Et en fait, je trouve que Dungeon Dungeon, c'est une belle synthèse de un peu tout ce qu'il a fait avant, et notamment d'un jeu qui s'appelle Chulip, dont je vous ai parlé vite fait. Et donc, je vais reparler un peu de ces deux jeux. En fait, Dungeon Dungeon, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une mise en abîme, clairement, comme jeu, puisque c'est l'histoire en fait d'un développeur japonais de jeux vidéo. Qui boit dans une grosse boîte qui s'appelle Empire Games, si je dis pas de bêtises, et qui décide d'arrêter de bosser là-bas parce qu'il aime pas son boulot là-bas. Et du coup, il est donc c'est un homme de 36 ans, célibataire, endurci, dans son petit appartement japonais un peu tout petit. Et en fait, il va juste se lancer à développer son propre jeu vidéo en indépendant. Et donc, en fait, on va jouer une sorte de conscience un petit peu étrange, un peu comme dans Baten Kaitos, je sais pas si vous avez déjà joué à Baten Kaitos. On joue en fait une sorte de conscience un petit peu au-delà, un peu divine. Et Yamada, donc le personnage principal du jeu, va s'adresser de temps en temps à nous et me dire vas-y, teste mon jeu, regarde si ça marche, si tout fonctionne, etc. Et du coup, en fait, le jeu va se découper en deux façons. C'est-à-dire qu'on va avoir l'interface du jeu, on va pouvoir avoir donc toute la partie narrative qui arrive avec les personnages qui viennent voir rencontrer Yamada, etc., etc. Yamada qui ajoute des trucs dans son jeu. Et la partie où on va lancer des niveaux, donc il va y avoir des donjons, un peu de puzzle game mélangé avec de l'action RPG, avec du RPG tout court, pardon. En fait, on va devoir tracer le chemin de notre personnage de manière à ce qu'il arrive jusqu'à la fin de la salle en passant sur toutes les cases, parce que c'est un jeu qui se déroule case par case. Donc il y a des murs, donc à chaque fois il faut prévoir le bon chemin pour pouvoir toujours ne pas se faire coincer dans un mur, donc ne pas rater un chemin, etc. Et aussi on a du coup des statistiques, des armes, des équipements qu'on va loot, des sorts aussi, des objets, et qu'on va pouvoir utiliser à peu près à n'importe quel moment durant les donjons. Il y aura des boss du coup qui vont nous être présentés, et donc chaque boss aura un peu sa stratégie, etc. Et du coup, à ce moment-là, on va gagner du coup des objets, des matériaux pour améliorer nos équipements, etc. Et du coup, il y a énormément de... Donc c'est un jeu qui se base beaucoup en fait sur le grind un petit peu et sur le fait que c'est un jeu mobile à la base sur le fait de recommencer, d'aller chercher ah tiens j'ai pas réussi à drop tel objet donc je vais aller retourner dans ce donjon, redrop tel objet, ah tiens tel boss il est revenu dans son donjon, je vais aller le battre, il peut peut-être me donner une arme légendaire, etc. etc. Et en fait le truc intéressant c'est que tous les événements en fait qui vont avoir place dans la narration, c'est-à-dire les personnages qui vont rendre visite à Yamada, il y a notamment son ancien patron qui vient pour le virer, il y a du coup les personnes qui, on ne sait pas trop pourquoi, tu vois, mais qui travaillent à Empire Games, qui viennent un peu le harceler et lui faire du tort. Et en fait, Yamada va s'inspirer de toutes ces expériences-là pour les rajouter dans son jeu. Donc par exemple, les boss des différents en fait, donjons, c'est les personnes qui viennent d'Empire Games, qui viennent le voir, etc. C'est le boss final, c'est son ancien patron, évidemment, etc. Et l'objectif, en fait, c'est d'aller sauver la princesse, qui s'appelle Maria, qui est en fait une jeune femme qui a emménagé à côté de Yamada, dont Yamada est tombé éperdument amoureux, en fait. Chaque niveau, ça va être le principe, c'est d'aller délivrer Maria, la princesse Maria. En fait, voilà, c'est un jeu qui est une mise en abîme assez claire du développement de jeux vidéo, de quelqu'un qui a bossé dans des grosses boîtes, qui a voulu ensuite aller vers l'indépendant. Et donc, Yamada, c'est littéralement Yoshiro Kimura hein, dans le jeu. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que le jeu, en fait, a vraiment cette mise en abîme de ah, tiens. On va avoir des personnages qui vont venir, en fait, on va s'inspirer, le personnage va s'inspirer un peu du quotidien pour alimenter son jeu. Il y a un peu, enfin là, il y a une mise en abîme assez forte là-dessus. Et aussi, c'est un jeu qui va pas mal parler des différents thèmes que Yoshiro Kimura, pardon, aborde dans pas mal de ses jeux, notamment dans Chulip, qui est le thème notamment de l'amour. C'est quelqu'un qui est très penché sur l'amour. Vous allez voir ses interviews, vous allez voir, il va parler tout le temps de l'amour. Alors quand il parle de l'amour, bien évidemment, l'amour, c'est un concept abstrait, donc c'est l'amour comment lui le voit, c'est-à-dire l'amour dans le sens. Pour lui, c'est vraiment le partage, c'est être agréable avec les gens, c'est le fait d'être toujours bon et d'être toujours prêt à donner, en fait. Et du coup, Yoshiro Kimura va parler énormément d'amour, puisque bien évidemment, c'est une histoire d'amour, Dungeon Dungeon, mais aussi c'est une histoire assez intéressante, puisque ça va parler aussi de liberté, de ce qu'on fait dans la vie, de peut-être des fois vivre dans des conditions peut-être un peu moins. Il y a notamment plusieurs personnages qui ont peu d'argent, et en fait, on peut leur donner de l'argent qu'on gagne dans le jeu pour qu'ils nous lootent des objets pour le jeu. En fait, il y a une connexion entre le monde réel et le monde du jeu qui est assez floue. Et du coup, c'est d'autant plus intéressant en termes de mise en abîme. Et voilà, et du coup, ça va être assez sympa. On va avoir pas mal de discours sur est-ce que c'est important vraiment de bosser dans une grosse boîte, ou est-ce que vraiment il faut essayer de faire des choix qui nous font plaisir, quoi. Comme lui a décidé de peut-être vivre de manière on va dire un petit peu moins à l'aise aujourd'hui, Yoshiro Kimura, mais fait des jeux indépendants sur les thèmes qui lui plaisent, etc. Donc il y a toute cette mise en abîme sur le parcours de Yoshiro Kimura. Mais aussi, le jeu rappelle énormément Chulip, donc un de ses jeux les plus, je vais dire culte, mais en même temps c'est un jeu qui est totalement inconnu, qui a dû vendre 10 000 copies au Japon et 10 000 copies aux États-Unis, tu vois. Moi je l'ai fait sur émulateur, donc je pourrais pas. Voilà, c'est un jeu de toute façon qui existe qu'aux États-Unis et au Japon et qui est ultra rare de ouf, il doit coûter au moins 100 $ minimum. Alors que le jeu est sorti en 2002, quoi, enfin voilà. Donc dans Chulip, en fait, on joue un petit garçon aussi, c'était une histoire d'amour également, qui devait en fait conquérir le cœur d'une jeune fille. Et en fait, c'était un jeu d'aventure, donc en fait, pour ça, il fallait résoudre les problèmes des habitants, pour embrasser les habitants, pour ensuite gagner en fait des cœurs, donc qui était notre jauge de vie, qu'on avait en fait quand on prenait trop de dégâts, parce que bah, quand on essayait d'embrasser quelqu'un, il nous mettait une baffe, ou quand on tombait sur des objets qui étaient désagréables, par exemple, on a fouillé dans les poubelles, on tombait sur une crotte, bah, on perdait de la vie, en fait, qui était représenté par les cœurs, en fait, le cœur du personnage. Bah, quand on avait 0 de points de vie, on faisait une crise cardiaque, et voilà, c'était parce qu'on avait été trop choqués, la vie nous avait trop martelé de choses difficiles. Et du coup, voilà, ça parlait un peu des mêmes thèmes, ça parlait d'amour, ça parlait, mais de l'amour au sens large, c'est-à-dire aider les gens à être bons avec les autres. Et ça parlait un peu des mêmes thèmes, mais aussi il y avait beaucoup de similitudes au-delà même du thème principal qui était le thème de l'amour avec Chulip. Déjà, il y avait tout le registre, on va dire, graphique, c'est-à-dire que c'est des jeux Chulip comme Dungeon Dungeon, c'est des jeux où la tronche des personnages, le chara-design, est très, 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 très métaphorique et imagé. C'est-à-dire que par exemple, dans Chulip, tu avais des personnages, en fait, déjà c'était de l'hyper-déformed. C'est-à-dire que la tête du personnage fait à peu près 3/4 du corps du personnage. Donc tu avais ça, ce qui.
Ça les soit pas en l'air.
Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu le même style qui avait été utilisé dans Final Fantasy IX quand tu traverses la. Je sais pas si t'as déjà joué à Final Fantasy IX. Quand tu
Si,
traverses
si.
la map monde, t'as un peu ce style-là où les
Oui,
personnages ont des grosses
d'accord.
têtes, tu sais. Sauf que là, les têtes sont des fois même encore plus grosses par rapport au corps des personnages. Et en fait, chaque personnage a des caractéristiques dans Chulip et dans Dungeon Dungeon, qui vont un peu caractériser du coup son personnage. Par exemple, dans Chulip, on avait un personnage qui avait un énorme nez rouge. En fait, c'était simplement parce que c'était un alcoolique, en fait. Et t'avais des trucs comme ça, t'avais aussi un personnage qui était en fait une personne qui avait vraiment des grosses rides, enfin tu vois, qui avait vraiment avec un chignon. Et en fait, t'apprenais plus tard dans le jeu que c'était une jeune femme, en fait, c'est juste que à être aigrie et toute seule et à boire tout le temps, en fait, bah, ça l'avait vieilli physiquement. Et en fait, parce que en fait, c'est des jeux qui parlent aussi beaucoup, au-delà de l'amour, aussi de beaucoup de. C'est une satire sociale assez forte, Chulip, de manière générale. Dans Dungeon Dungeon, du coup, on a aussi un peu ce côté satire social. Et on a du coup aussi ces personnages, par exemple le PDG d'Empire Games, donc c'est un mec qui a une grosse capuche violette, un peu, tu sais, les grands méchants de jeux de rôle, avec une grosse tête, vraiment genre le gros ego avec la grosse tête. On va avoir la chef de direction, enfin celle qui va diriger les employés, qui elle va être une jeune femme sadomaso, donc qui donne des coups de fouet à ce qu'elle considère être ses cochons, en fait. Tu vois, enfin c'est très imagé, très métaphorique. Si voilà, même si ça reste assez simple quand même au niveau de la métaphore. Fort, on va pas se mentir, hein, c'est très très bas niveau, bas du front, mais c'est assez simplement imagé et assez drôle aussi parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ces jeux. Et du coup, tu as toutes ces choses-là. Donc, au niveau du fond, c'est assez proche du Chulip, et au niveau de la forme également, parce qu'en fait, donc je vais parler du character design, mais tu as aussi tout ce qui est simplement. Et ça, par contre, c'est ultra intéressant. T'as tout ce qui provient aussi de l'expérience de Yoshiro Kimura. Donc, t'as l'humour déjà qui est très présent, qui a un humour assez similaire à Chulip, avec des personnages qui vont faire des bruits bizarres. T'as tous les personnages parlent en yaourt. Chaque personnage a son propre yaourt avec des intonations différentes, des mots, si on peut dire ça, enfin des yaourts un peu différents. Et ça, dans Chulip comme dans Dungeon Dungeon. Il y a aussi un lien assez proche avec les arts de la scène. Puisque Yoshiro Kimura, quand il était plus jeune, si vous allez voir son interview sur Archipel, il a fait du théâtre pendant pas mal de temps. Et ça se ressent énormément dans ces jeux, ne serait-ce que pour la réalisation, la mise en scène des cinématiques, la mise en scène des dialogues, etc. Et dans Dungeon Dungeons, c'est absolument. Enfin, c'est quelque chose qui est absolument voyant. C'est en fait le jeu ne se passe uniquement. Alors, c'est en partie parce que le jeu était à la base un jeu mobile, mais c'est aussi parce que voilà, je pense qu'il y a vraiment cette influence qu'il a du théâtre, parce que le jeu ne se passe uniquement que dans la chambre de Yamada. Et en fait, il y a la porte d'entrée, le PC, le lit, et en fait. Il y a des objets donc, qui vont arriver dans le jeu, dans ta chambre, au bout d'un moment, à force d'avancer dans le jeu, et donc qui vont remplir la scène de décor. Et puis il y a des personnages qui vont rentrer, en fait, la porte s'ouvre, des personnages rentrent, t'as une scène avec ces personnages qui ont chacun des gimmicks, etc., leur petite musique, ils ressortent, boum, après, ah tiens, quelqu'un d'autre rentre dans la pièce, tac, ça fait vraiment théâtre où il y a des personnages qui rentrent, qui sortent, un peu comme de la scène en fait. Il y a ce côté-là. Il y a le côté aussi un peu opéra, alors qui est plus présent dans Chulip et dans Blackbird, les derniers jeux de Yoshihiro Kimura. En fait, il y a beaucoup de chansons. Enfin, beaucoup de. C'est pas des chansons, c'est des musiques où la voix, en fait, est ultra importante. En fait, la musique est en grande partie construite d'onomatopées vocales. Je vais pas vous en chanter parce que je vais avoir l'air un peu ridicule. Mais allez regarder, écouter les OST de Blackbird, de Chulip. Notamment dans Blackbird, il y a littéralement des chansons qui pourraient être dans un opéra, tellement dans un opéra classique, tellement que ça ressemble à ça. Donc il y a un peu cet amour et cette omniprésence des arts de la scène aussi dans ces jeux, qui en font des jeux assez atypiques au niveau de la présentation. Quand on joue à un de ces jeux, il y a vraiment ce feeling un petit peu. Ah, c'est bizarre, la présentation est un peu étrange, quoi. Un peu, ça nous désarçonne. Donc pour moi, c'est pour ça que Yoshihiro Kimura, je vous ai un peu présenté les différents trucs qui font que pour moi, c'est un auteur un peu atypique et un auteur à part entière assez intéressant. Donc j'espère que ça vous intéressera et que si jamais vous avez l'occasion un jour de jouer un de ces jeux, bah, foncez, même si la plupart sont assez chers malheureusement, parce qu'assez rares et assez difficiles d'accès, ça reste des jeux très sympas. Donc voilà.
C'est marrant parce qu'on dirait qu'on pourrait limite cataloguiser ces jeux vidéo comme les premiers biopics du jeu vidéo. Ça a l'air très personnel en vrai. Après, je trouve ça toujours drôle de mêler le média et la conception du média dans un même média. C'est-à-dire, par exemple, ça me fait penser à Magic Circle, qui était du
Oui.
coup un jeu indépendant où le principe c'était un joueur qui testait le jeu qui était en train d'être développé en même temps que tu joues.
Oui, j'avais joué, ce
C'est
qui était très sympa.
très sympathique, mais après, et qui du coup parlait beaucoup qui parlait un peu des problématiques du développement et de l'incompréhension, enfin du travail en équipe, etc., et que ça passe pas partout. Et du coup là on a une autre version du coup apparemment du développement ou plus personnel et comment on le vit émotionnellement, j'ai l'impression.
C'est ça, bah, tu sais, en fait, c'est vraiment, j'ai l'impression que Dungeons & Dragons, c'était vraiment le tracé un peu genre, ah, bah, j'ai fait tout ça dans le jeu vidéo et j'en suis là aujourd'hui, et du coup, je vous livre mon histoire un petit peu. J'ai un peu l'impression que Yamada, c'est vraiment Yoshiro Kimura, et que c'est vraiment une mise en abyme très forte, et qu'en fait, le jeu, en fait, il parle du parcours en fait, de Yoshiro Kimura au final. Et ouais, il y a vraiment notamment avec toutes les ressemblances avec ces anciens jeux, les thématiques qui reviennent, il y a, voilà, parce que quand tu joues à No More Heroes ou à Shadow of the Dam, qui sont des jeux certainement, enfin, No More Heroes, c'est très bien, Shadow of the Dam, j'ai jamais joué, mais même Little King Story, c'est des jeux très bien, tu vois, mais c'est des jeux qui s'éloignent quand même pas mal de ce qu'a fait Chulip. Et on aurait pu dire, ouais, Chulip, c'était juste un jeu comme ça qu'il a fait. Mais en fait, non, je pense que Chulip, c'est vraiment un jeu qui parle énormément de ce que Yoshiro Kimura avait envie de parler avec le jeu vidéo. Et en fait, il le confirme, je pense, aujourd'hui avec Dungeons & Dragons. Et c'est pour ça que pour moi, avec ce jeu-là, il prouve vraiment en fait, son statut un peu d'auteur, de dire, j'ai des thématiques assez fortes, j'ai une histoire dans le média, je parle de trucs. Enfin, tu vois, c'est pas juste quelqu'un qui va faire du jeu vidéo, comment dire, comme on pourrait poser dans une boîte en disant, bah voilà, je suis producteur, mais je fais des jeux qui n'ont pas vraiment de lien les uns avec les autres. Là, lui, il a vraiment genre, c'est un peu cette démarche un peu d'avoir un lien avec ses autres œuvres, avec son parcours, etc. Et c'est pour ça que je pense que ouais, c'est un auteur assez intéressant malgré tout, même si on va pas se mentir, c'est difficile aujourd'hui de jouer à ces jeux parce que c'est des jeux bah, qui sont des fois frustrants, qui sont des fois pas très bien équilibrés ou autre. Hein. C'est pas non plus le meilleur game designer du monde, donc voilà quoi. Et du coup,
Ça
voilà.
prouve quand même que le jeu vidéo a pris une vraie maturité dans le sens où on a des jeux d'auteur quoi
Ouais, bah,
actuellement. On a des vraies licences, pas licences, mais tout des œuvres centrées sur vraiment des gens qui veulent parler de choses. Après, c'est l'ère d'aujourd'hui qui nous permette de pouvoir faire ça. Je pense que.
Je pense aussi qu'il y a le fait qu'aujourd'hui avec Internet on s'en rend plus facilement compte. Tu en parlais du fait
Oui.
qu'on joue à des jeux inconnus. Ces jeux inconnus, il faut les trouver. Et
Oui.
quand t'as que des magazines qui te relaient forcément les jeux les plus connus, bah tu vas pas les trouver. Parce que tu vois, moi je pense par exemple à un jeu très bête, hein, mais je sais pas si tu connais LSD Dream Emulator,
Oui, bah bien
qui est
sûr,
sorti à la fin des années 90 sur PS1. C'est un
oui.
jeu qui est sorti avant les années 2000, et pourtant, bah en fait, le jeu concrètement, c'est on se balade dans un univers où en fait c'est le développeur principal, donc le producteur du jeu, je me rappelle plus de son nom, excusez-moi, qui a simplement noté ses rêves et les a reproduits en jeu. Et en quelque sorte, c'est déjà une sorte de démarche un peu d'auteur en soi de faire ce genre de choses-là. Mais bah, à l'époque, qui connaissait les Dream Emulator qui est sorti qu'au Japon, qui a dû vendre même pas 10 000 copies, enfin tu vois le truc quoi. Donc je pense qu'il y a aussi le fait qu'aujourd'hui on a cette culture un peu plus accessible grâce à Internet. Mais oui, je pense que ça s'est démocratisé aussi bah, simplement par le fait que comme c'est plus accessible, les gens se sont dit ah, on peut faire ça avec le média, mais du coup se sont aussi dit bah tiens, je vais le faire du coup. Donc il y a ça
Mais
aussi, je
surtout,
pense.
c'est le développement du marché de l'indé aussi qui a énormément permis ça, des développeurs qui ont pu trouver des voies différentes que les voies de distribution normales pour pouvoir créer leur truc.
Ouais, il y a ça aussi, oui. Le fait qu'on peut prendre plus de risques avec des jeux à plus petit budget, sans avoir une campagne de com énorme, ou d'une distribution à travers une distribution boîte, etc. En effet, ouais. Il y a pas mal de ce genre de choses là. Mais voilà. Donc, je pense qu'on a fait. Enfin, de manière générale, je pense qu'aujourd'hui, on aura quand même pas mal parlé du jeu japonais, de bah, pourquoi on l'aime bien, pourquoi en fait on aime bien ce côté positif du jeu japonais, cette démarche un peu d'auteur qu'il y a dans le jeu japonais. Je sais pas si t'as envie de rajouter quelque chose par rapport à ça.
Non, moi c'est bon.
Et du coup, bah, je pense qu'on peut passer à la suite, donc aux deux jeux, enfin aux jeux qu'on voudrait vous recommander vite fait, dont on va parler assez rapidement. Ouais? Allez, vas-y.
Alors, je vais juste commencer vite fait parce que je
Vas-y.
pensais du coup parler d'un petit jeu et finalement, au fil de la discussion, m'est venu un autre que j'aimerais vous
Ah.
conseiller et qui s'appelle Under the Skin, qui est
Ah
un jeu
oui.
de Capcom et qui est très très barré et qui est très très dans cet esprit justement qu'on a développé avec Takashi et
Yoshiro Kimura.
Yoshi. Ouais, voilà. Excusez-moi. Et du coup qui est très dans cet esprit et qui est le principe c'est des aliens farceurs qui du coup doivent aller sur différentes planètes pour réussir un examen de la farce et on incarne celui qui est le cancre de service et qui n'y arrive pas et du coup les examinateurs décident de l'envoyer
Sur
sur
Terre.
Terre pour qui est la Terre la plus qui est l'endroit considéré comme le plus dangereux et du coup le principe c'est on est lâché dans une petite arène et on a des petits objets à droite à gauche qui nous permettent de jouer avec les humains en fait pour leur faire des farces et gagner des points et accumuler des points pour pouvoir passer à la prochaine map. Et c'est très très bête, mais voilà, c'est un jeu qui est un peu passé inaperçu, j'ai l'impression,
C'est
quand
ça.
il est sorti.
Après, c'est un jeu qui est surtout intéressant à jouer avec des gens parce que sous-sol
C'est
il devient
ça.
assez vite répétitif quand même.
C'est ça, voilà, le mode solo, c'est vraiment juste pour la toute petite histoire, mais vraiment, c'est le mode de joueur qui est derrière. Je crois que, non, il n'est pas multi. Non, il n'est que deux joueurs, du coup. Mais j'y ai joué avec un ami et c'est très très sympathique de monter les humains les uns contre les autres pour qui. Et en fait, le but, c'est pas de se faire découvrir aussi d'être un alien. Et le but, du coup, quand on est à deux joueurs, c'est d'essayer de faire découvrir l'autre pour qu'il se fasse taper dessus plutôt que nous. Ce qui donne des situations un peu
Et puis
rigolotes. Voilà, c'était mon.
t'as un niveau aussi, il me semble, Resident Evil 3 avec le
Oui,
Nemesis, Jill et tout,
c'est ça.
ouais,
Et
non,
c'est un niveau
assez
ici.
sympa.
Ouais. Niveau.
Donc voilà, ouais, pour les fans de Capcom, en effet.
Pour les fans de Capcom. Voilà, c'était mon petit conseil du jour.
Et ben moi je vais vous parler alors d'un jeu qui existe sur Steam. Alors je sais pas s'il existe sur d'autres plateformes. Je sais qu'il existe sur Steam et qui coûte 3 €. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est pas un grand investissement. Ça s'appelle Helix, Hylicss. Et c'est un jeu de rôle fait par Mason Lindroth. Je sais pas le prononcer, donc désolé si je l'écorche. Et c'est un jeu fait sous RPG Maker, donc ça peut paraître un peu étrange, mais c'est un jeu de rôle, c'est un jeu de rôle tour par tour, pas japonais. J'allais faire une boutade. Et c'est un jeu donc, qui se dit comme un programme de recréation. C'est un peu étrange. Les dialogues des fois n'ont même pas de sens. C'est un jeu qui est en anglais, mais les dialogues n'ont pas vraiment de sens. Des fois, t'as l'impression un peu que le mec, en fait, il le dit de lui-même dans une interview que j'avais vue où il disait, bah, je savais pas quoi faire comme histoire. Du coup, je me suis dit, bah, ça pourrait être intéressant que des fois les personnages, en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire et qu'ils te disent juste des trucs un peu aléatoires. Et en fait, le jeu, bah, il te dit des trucs aléatoires, quoi. Du coup, les dialogues sont un peu aléatoires. Le système de combat est assez complexe parce qu'en fait, il faut vraiment les sorts pour vraiment sortir, sinon on se fait très vite tuer. Et il y a pas mal de secrets à aller retrouver. Il y a des personnages à recruter. Il y a trois personnages à recruter pour former une équipe. Et des fois, il y a des trucs un peu secrets. Il faut savoir que tel personnage est là, aller le chercher, etc. Il y a des trucs, il faut leur ramener des objets. Il n'y a pas vraiment d'histoire. On suit une sorte quand même de trame, plus ou moins. Enfin, on suit une progression. C'est-à-dire qu'on va débloquer des véhicules qui vont nous permettre d'accéder à différentes zones du jeu jusqu'à arriver à la zone finale. Quand on meurt, on arrive dans une sorte d'au-delà un peu étrange où on peut améliorer nos personnages, où on peut, si on meurt plus d'un certain nombre de fois, acquérir une arme surpuissante, etc. Enfin, il y a plein de trucs très étranges. C'est un jeu qui a aussi un design visuel et sonore très particulier.
Réaliste.
Alors, c'est pas du tout réaliste. C'est
Ouais, c'est du
ultra.
surréaliste.
Ouais, ah oui, voilà, c'est du surréaliste, excuse-moi, j'avais mal compris. Et voilà, c'est ultra. Et au niveau de la musique, c'est sorte de rock un peu. Alors, je suis pas assez connaisseur en musique pour vous dire exactement quel sous-genre c'est, mais c'est un petit peu étrange. Ça peut en désarçonner plus d'un, parce qu'il n'y a aucune indication vraiment sur ce qu'on doit faire. Le jeu, en plus, on meurt très souvent, ça peut vite devenir frustrant. Mais c'est quand même un jeu qui est très sympa, qui est pas un grand chef-d'œuvre, mais c'est un petit jeu de rôle sympa, dans lequel on a quand même, parce qu'il dure pas très longtemps, il dure 4-5 heures à tout péter. Et une fois qu'on arrive à comprendre un petit peu les tenants et aboutissants de ce qui se passe dans le jeu, on arrive quand même assez vite à avancer, et le jeu peut devenir déjà de 1 assez difficile et intéressant au niveau de son système de combat, mais aussi assez fascinant, sans être pour autant l'œuvre la plus intéressante, je dirais, que vous pourrez retrouver sur Steam. Ça reste un jeu très sympa, c'est mon petit conseil du coup du podcast. Donc voilà. Et ben, je pense qu'on a fait le tour de ce dont on voulait dire. Mélena, est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour le
Non,
podcast?
tout va bien.
Tout va bien. Bon, bah si tout va bien alors. Et bah parfait. Du coup, on va vous laisser là. Si jamais vous avez quoi que ce soit à nous dire, que ce soit sur des conseils pour améliorer le podcast ou juste ou juste que vous voulez échanger avec nous, n'hésitez pas à poster des commentaires dans les espaces commentaires où on postera le podcast. Et si jamais vous avez aussi des jeux inconnus, n'hésitez pas à les partager également. Bah, sur ce, je pense qu'on peut vous dire au revoir. Et bah,
Bonsoir à tous.
à une
Merci
prochaine.
de m'avoir suivi.
Merci de
À
nous
une
avoir
prochaine.
suivis. À bientôt.
À bientôt.